autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur les mathématiques comme enjeu de développement. Pourquoi les outils mathématiques sont devenus indispensables pour relever les défis majeurs du continent? De la formation des jeunes ingénieurs à la modélisation de problématiques cruciales comme l'érosion des sols, la montée des océans ou la gestion de la pêche, sans oublier les indispensables algorithmes de nos intelligences artificielles. Comment encourager et soutenir une recherche d'excellence en mathématiques au Sud? Question soulevée toute la semaine dernière à Dakar, à l'université Cheikh Diop, au congrès Sciences Ouvertes de l'IRD dont on vous reparlera très vite, mais aussi lors d'une journée spéciale à l'UNESCO à Paris consacrée aux mathématiques comme enjeu de développement qui a réuni les plus éminents chercheurs d'Afrique et d'Europe. C'était le 15 mars dernier. Nous vous proposons de réécouter leurs échanges et leurs pistes de réflexion autour de la question: comment mettre les mathématiques au service du développement. Bienvenue.
C'est fort heureux maintenant qu'au niveau africain, qu'on ait plusieurs centres d'excellence, dont des centres d'excellence dédiés aux mathématiques, aux technologies actuelles et à l'informatique. Et je pense que les mathématiques sont extrêmement importantes quand on fait de la bonne science, parce que si on veut faire de la projection, si on veut aller vers l'élimination ou l'éradication, à partir des données actuelles que nous avons, il y a possibilité de faire de la modélisation. Et en allant vers la modélisation, c'est sûr que les mathématiques constituent la base.
Bonjour Jean-Pierre Bourguignon.
Bonjour Caroline Lachowski.
Merci d'être en direct avec nous. Pour mettre les mathématiques au service du développement, comme le rappelait à l'instant le professeur de parasitologie Oumar Gaye de l'université Cheikh Diop de Dakar, les mathématiques sont un outil indispensable pour faire de la bonne science, quelle qu'elle soit. Et pourtant, il n'y a pas assez de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens sur le continent, même si ce ne sont pas les capacités qui manquent. Ça, c'est vous qui le dites, on y viendra, hein, Jean-Pierre Bourguignon. Vous êtes un de nos plus éminents mathématiciens, lauréat des plus prestigieux prix scientifiques internationaux. Vous avez mené vos recherches au CNRS, professeur à l'École Polytechnique. Vous avez également dirigé l'IHES, l'Institut Scientifique des Hautes Études. Et puis, depuis 2014, vous êtes le président du Conseil Européen de la Recherche, qui pourrait bien d'ailleurs inspirer un futur Conseil Africain de la Recherche, on y viendra. Car vous êtes vous-même, Jean-Pierre, depuis longtemps très impliqué dans ces centres de recherche en mathématiques, dans ce réseau AIMS qui essaime sur tout le continent. Vous êtes membre du conseil scientifique du NEF, hein, le Next Einstein Forum, qui soutient les jeunes têtes chercheuses du continent. Un engagement de longue date qui vous a mené du Bénin au Cameroun, au Sénégal, au Rwanda et jusqu'en Afrique du Sud. C'est, je crois, un de vos premiers étudiants qui est aujourd'hui professeur émérite de mathématiques à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, le professeur Jean-Pierre Aizin, qui vous a sensibilisé comme une évidence finalement à l'Afrique.
Oui, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, Jean-Pierre Aizin a été un de mes tout premiers élèves de recherche. Et à ce moment-là, il était, il travaillait à Lille. Mais en fait, il est venu travailler avec moi parce que les sujets qui l'intéressaient étaient des sujets sur lesquels je pouvais éventuellement le guider. Et c'est vrai que les contacts avec Jean-Pierre sont devenus pour moi une inspiration, parce que lui-même donc a fait une thèse, il est devenu docteur. Je crois qu'il était le premier docteur en mathématiques du Bénin. Il y en a eu beaucoup d'autres après, et des très brillants. Et en fait, il a choisi, pas de rester en France, où il aurait pu rester, mais de rentrer dans son pays. Et comme toujours, quand on rentre dans un pays où les ressources en universitaire sont pas très nombreuses, ça veut dire qu'on doit faire beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire évidemment faire des cours, évidemment former des élèves, évidemment se préoccuper de trouver des conditions pour faire de la recherche, mais aussi écrire les sujets des concours pour recruter les professeurs du secondaire, ou, etc., etc. Donc, moi, je trouve très admirable que des gens comme lui, qui évidemment aurait pu avoir une carrière confortable dans un pays occidental, en France en particulier, qui était le pays qu'il avait, où il avait fait sa thèse, choisissent la voie plus difficile de rentrer au pays et de là de se consacrer à développer une école. Je crois que ça s'est fait maintenant, il n'est plus du tout seul. Maintenant, comme vous l'avez dit, il est déjà à la retraite. Entre-temps, il a quand même été commissaire pour l'enseignement supérieur et la recherche de l'Union africaine, donc qui n'était pas non plus une chose pour laquelle il était prédestiné. Donc c'est vrai que c'est grâce à lui que j'ai fait ces visites en Afrique et que j'ai rencontré des collègues dans plusieurs pays.
Et pourquoi est-ce si important aujourd'hui, pour vous, hein, Jean-Pierre Bourguignon, de soutenir l'enseignement, la formation et la recherche, une recherche d'excellence en mathématiques sur le continent?
Mais disons, il y a eu une période où les gens qui s'intéressaient au développement ont pensé, et c'est pas faux en soi, que la priorité absolue devait être donnée à l'enseignement primaire. Et c'est vrai que pour les sociétés que, disons, le monsieur et madame de la rue disposent d'une éducation de base et fondamentale pour le développement. Malheureusement, on ne peut pas se limiter à ça, parce que d'abord, les gens qui vont faire cette formation vont être des gens qui sont formés dans l'enseignement supérieur, ils vont être des professeurs. Et donc, s'il n'y a pas en même temps un enseignement supérieur de qualité, il ne peut pas y avoir un enseignement de base de qualité.
Non, il faut donc former ces instituteurs, voilà. Déjà.
Et donc ça, c'est le conflit. Mais après ça, l'autre chose, c'est que le développement passe aussi par des activités qui sont aujourd'hui de plus en plus irriguées par des connaissances scientifiques. Et dans le cas des mathématiques, qui pendant longtemps ont été une discipline qui s'auto-reproduisait, maintenant on a une situation, en tout cas pour les pays développés, mais pour un certain nombre de pays africains, la situation évolue aussi, où un nombre considérable de diplômés, en fait, irrigue la société. Quand on voit l'importance qu'a prise aujourd'hui les statistiques, on voit bien qu'il n'y a pas de secteur des assurances, qui est quand même un domaine où toutes les sociétés ont besoin, qui soit le secteur des assurances est un consommateur de mathématiciens ou de mathématiciennes importants.
Oui, on a besoin des mathématiques, elles sont omniprésentes, elles irriguent tous les secteurs de la société.
Parce que si on veut faire des assurances de qualité, il faut-il encore avoir des modèles mathématiques adaptés aux diverses situations qu'on a. En plus, pour des sociétés dans lesquelles, même chose avec le secteur des banques, on pense toujours aux banques comme un endroit d'accumulation d'argent, mais c'est aussi un secteur indispensable pour la vie quotidienne de toute une population. Et justement, un des pays qui était les plus créateurs en matière de bancaires, c'est en fait l'Inde, parce que justement, il fallait se préoccuper de gens qui n'ont pas de vrais comptes en banque, mais qui ont des sommes extrêmement petites, qui veulent faire du microcrédit. Donc on voit bien que pour toutes ces choses-là, on a besoin de gens qui créent des choses à partir de connaissances qui sont en fait, pour ces secteurs-là, des connaissances essentiellement mathématiques. Pour les généraliser, on a besoin d'un réseau informatique et de choses de genre-là, mais au niveau de la création des objets, qui sont les objets qui permettent ces développements, en fait, on a besoin de mathématiques. Et les mathématiques ne viennent pas comme ça du ciel, c'est des gens qui les font, c'est toujours des personnes. Et donc, on a besoin de gens ayant une formation qui leur permet d'être eux-mêmes créateurs. Et donc, ces hommes ou ces femmes qui font ça, il faut les former, y compris dans les pays en voie de développement.
Précisément, Jean-Pierre Bourguignon, autour de la question comment mettre les mathématiques au service du développement, donc question que vous avez soulevée à l'UNESCO dans le cadre de la conférence Math Day for Development, une journée spéciale qui a rassemblé les chercheurs et chercheuses européens et africains les plus engagés. Et bien justement, parmi eux, il y avait une mathématicienne tanzanienne que vous avez croisée également. Elle s'appelle Angelina Bijura. Elle est directrice de l'Inspire Secondary School en Tanzanie. Angelina est également secrétaire du réseau de recherche sur l'enseignement des mathématiques en Afrique de l'Est. Elle revient à la fois sur son parcours et sur son engagement au micro de notre reporter Charlie Dupiot. J'ai découvert que j'avais envie de faire des maths à l'âge de 12 ans. C'est un peu par hasard, j'ai eu alors un enseignant qui a changé ma façon de voir les choses. En fait, il nous a enseigné en faisant devant nous des démonstrations. Et le sujet qui m'a le plus marqué alors, ce sont les nombres relatifs positifs et négatifs. Notre enseignant avait dessiné une ligne au sol et il nous faisait aller de gauche à droite par rapport à cette ligne pour nous expliquer comment on pouvait ajouter ou soustraire des nombres positifs ou négatifs.
Bon, ça, c'était des mathématiques assez faciles.
Yes, it was quite easy, but that was the beginning.
Oui, c'était facile, mais ce n'était que le début. Dès lors, j'ai compris que si l'on enseignait bien les mathématiques à un enfant, il peut mieux les comprendre, comprendre leur sens. Et c'est pour ça que j'aime enseigner les mathématiques. Il y a une vraie beauté dans la façon dont on pense en mathématiques, les modèles qu'on élabore. On sait ce qu'on veut en mathématiques, ce qu'on cherche. C'est ce que j'aime le plus dans cette matière.
Quel lien entre mathématiques et développement ?
Oh, il y en a beaucoup, car pour le développement, nous voulons que nos étudiants étudient ce qu'on appelle les STEM, les sciences, les technologies, l'ingénierie et les maths. Et ils ne peuvent pas devenir ingénieurs ou travailler dans les technologies s'ils n'y connaissent rien en maths. Donc, les mathématiques sont la base de la science et du développement. C'est particulièrement important en Tanzanie, car nous sommes un pays pauvre, je dirais un pays en voie de développement. Et la Tanzanie doit devenir un pays industrialisé. Pour cela, nous avons besoin de technologies. Il nous faut développer notre secteur informatique.
My hope is that it will change the way the teaching and learning of mathematics.
Mon espoir, ce serait de changer la façon dont les mathématiques sont enseignées en Tanzanie. Nous avons un enseignement de mauvaise qualité dans cette matière. C'est un problème. Nous n'avons pas assez d'enseignants qualifiés. Et au sein de l'université de Dar es Salaam, qui est notre université principale en Tanzanie, où des programmes de mathématiques sont proposés, ils sont seulement près de 30 étudiants à étudier les maths, alors que des centaines, des milliers d'autres s'intéressent aux autres matières. Si nous voulons développer notre pays, il va falloir changer notre façon d'apprendre. Les mathématiques.
Jean-Pierre Bourguignon, vous voulez réagir, vous partagez le constat de la mathématicienne tanzanienne Angelina Bidjura. Il y a encore du chemin à faire. Hein.
Oui, je pense qu'Angelina Bidjura a été très convaincante dans son plaidoyer pour que l'enseignement des mathématiques soit amélioré. C'est vrai que, en fait, dans l'ensemble du monde, pas seulement dans les pays en voie de développement, souvent les mathématiques sont vécues comme un repoussoir. Mmh. Et on trouve, en France, un certain nombre de gens qui sont très fiers de ne rien comprendre aux mathématiques. Et ça, c'est une situation évidemment extrêmement pénible pour un mathématicien, parce que moi, je comprends tout à fait que quelqu'un puisse ne pas avoir le goût de faire des mathématiques, d'y consacrer sa vie, c'est complètement normal et parfaitement respectable. Par contre, ça veut dire qu'il y a quand même une relation à étudier pour essayer de surmonter cet obstacle. Parce que cet obstacle, il entraîne qu'un certain nombre de gens, non seulement ne vont pas faire des mathématiques eux-mêmes, ce qui est parfaitement acceptable et non problématique, mais vont aussi avoir une influence autour d'eux et du coup faire de la discipline, une discipline que finalement on peut négliger, on peut ignorer. Et ça, c'est malheureusement pas possible, en particulier dans les sociétés modernes, dans lesquelles il y a une sorte d'ubiquité des mathématiques. Les mathématiques
oui,
sont présentes dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et elles sont
c'est lié aussi à la révolution numérique.
Alors,
on peut aujourd'hui modéliser toutes les problématiques des pays en développement, au niveau de la santé, au niveau de l'environnement.
Vous avez raison de dire que la digitalisation, comme on a tendance à l'appeler, c'est-à-dire la génération de la représentation par des nombres, ouvre un champ de possibilités considérables pour les mathématiques. Pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord qu'on doit se donner, on doit organiser des mesures qui permettent de prendre connaissance d'une situation. Donc ça veut dire, déjà, de ce point de vue-là, avoir une analyse raisonnée pour transformer quelque chose qui, généralement, est complexe, et donc d'identifier quels vont être les facteurs essentiels.
C'est-à-dire comprendre ce qui se passe, une situation donnée, et la modéliser, la rendre plus simple pour pouvoir mieux la comprendre et
absolument
agir dessus.
Tant qu'on n'a pas un modèle raisonnablement simple, c'est simplement impossible d'en faire en étudier l'évolution. Mais évidemment, après ça, la chose déterminante, c'est d'avoir une connaissance, et là, il n'y a pas que des mathématiques, des forces qui déterminent l'évolution d'un système pour qu'on puisse ensuite, une fois qu'on a écrit les équations, entre guillemets, qui gouvernent cette évolution, comment on peut, à ce moment-là, utiliser les outils mathématiques pour résoudre ces équations. Mais évidemment, généralement, l'écriture des équations, l'identification des équations, l'identification des paramètres essentiels ne fait pas appel du tout qu'aux mathématiques. Et c'est là où c'est indispensable que les mathématiques soient liées à d'autres connaissances, que les mathématiciens ou les mathématiciennes travaillent en collaboration avec d'autres personnes. Il n'y a pas de raison que ce soit eux qui fassent tout. Les autres ont tout à fait leur place. Et donc c'est important que les gens développent des langages communs, qu'ils puissent échanger, et que les étudiants soient exposés très tôt à des situations où il est indispensable de mélanger ces savoirs.
Oui, vous défendez d'ailleurs cette interdisciplinarité obligatoire. Et c'est vrai que pour que des mathématiciens puissent proposer des modèles appropriés, il faut qu'ils soient en lien avec, que ce soit des biologistes, des physiologistes, des hydrologues, enfin vraiment qu'ils soient en lien avec les autres disciplines, ceux sur lesquels
absolument
il faut travailler.
Absolument, ça c'est une chose qui est connue depuis toute l'histoire des sciences, qui était qu'il s'agissait d'identifier quels étaient les domaines dans lesquels un certain nombre de lois s'appliquaient. Déterminer ces lois était un travail scientifique qui généralement a pris des siècles. Et donc, ça, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est capable dans énormément de situations d'avoir une idée simplifiée de la réalité par le biais des modèles, et que pour développer ces modèles et pour les étudier, on doit conjuguer une connaissance, disons, intime du sujet, de la biologie, de la physique, de la chimie, etc., de la sociologie, aussi les domaines des sciences humaines et sociales. Bien sûr. Et ensuite, utiliser des résultats mathématiques pour avoir tiré des informations de ces situations. Et alors évidemment, presque toujours, ces modèles sont des modèles simplifiés. Donc ça veut dire que si on veut avoir une connaissance extrêmement précise, on doit raffiner les modèles, on doit introduire d'autres paramètres, on doit avoir une meilleure connaissance des lois fondamentales. Et ça, c'est une révision permanente dans toutes les sciences.
Jean-Pierre Bourguignon, vous êtes vous-même très très engagé dans cette diffusion des mathématiques à la tête du Conseil de recherche européenne, mais également il y a aussi des passerelles entre les deux. Vous n'aimez pas les frontières entre les disciplines, j'ai l'impression que vous ne les aimez pas beaucoup entre les hommes et entre les chercheurs. L'Académie africaine des sciences s'engage elle aussi dans ce sens-là. Vous êtes en lien régulier.
Alors ça c'est une chose, disons, un tout petit peu nouvelle, c'est-à-dire que à l'échelle, d'abord il faut savoir que c'est très intéressant de savoir qu'il y a une union mathématique africaine qui a existé avant qu'il existe la même structure au niveau européen. Donc les Africains ont d'une certaine façon donné l'exemple aux Européens.
Et pour l'Afrique, en fait,
qui donc regroupe des mathématiciens de l'ensemble, enfin un certain nombre de pays d'Afrique, pas tous, mais un certain nombre de pays d'Afrique. Donc c'est intéressant de voir qu'ils ont précédé les Européens. Alors les Européens, une des raisons pour lesquelles ça traînait, c'était évidemment des questions de susceptibilité entre pays, comme vous pouvez imaginer. Dans le cadre de l'Afrique, comme vous savez, il y a une grande division qui, justement, pour cette Union mathématique africaine, a été vraiment très très importante à surmonter, qui était la division entre les francophones et les anglophones. Et de ce point de vue-là, il y a une structure qui a joué un rôle, à mon avis, fondamental pour changer la donne, qui est donc ce qu'on appelle AIMS, qui est African Institute of Mathematical Sciences, à l'initiative de Neil Turok, essentiellement, à l'origine, mais après avec
chercheur
beaucoup d'autres
chercheurs sud-africains, mais qui a rallié beaucoup de
physicien
monde.
Physicien et fils aussi de lutteurs, de parents qui ont lutté contre l'apartheid. Tout en étant blanc, mais évidemment étant associé étroitement avec des Sud-Africains d'autres ethnies.
Bon, il y a un humanisme là derrière.
Voilà, et donc il a créé ça avec l'idée justement que pour des étudiants africains de niveau maîtrise, francophones et anglophones, qui puissent se côtoyer pendant typiquement 2 années pour une formation commune, beaucoup plus large que la formation dont ils disposaient dans leur propre pays, avec l'idée qu'ensuite ils devaient se disperser, et pour juste en gardant des liens entre eux, mais après avoir eu cette expérience extraordinaire d'une formation beaucoup plus ouverte et en même temps beaucoup plus ouverte du point de vue linguistique. Autrement dit, les Anglais devaient apprendre le français, les anglophones devaient apprendre le français et les francophones devaient apprendre l'anglais.
C'est vraiment un réseau. Moi, j'ai eu la chance de visiter celui de Mbour au Sénégal et celui à Kigali aussi au Rwanda.
Maintenant, il y en a
un à Kigali. Et effectivement, ce sont vraiment des mathématiciens de tout le continent, francophones, anglophones, et qui en plus reçoivent des enseignements des plus éminents mathématiciens, qu'ils soient anglophones ou francophones du monde.
Voilà, alors là, ça a été le succès de Neil Turok, de AIMS, de ce réseau qui se développe. Ça a été justement de convaincre un certain nombre de mathématiciens de bien vouloir consacrer du temps. Un très bon exemple de ça est Cédric Villani, qui a visité très régulièrement Mbour,
au Sénégal.
Mais la donnée fondamentale, c'était vraiment d'offrir à ces étudiants, qui étaient évidemment des étudiants très motivés, très décidés, une formation beaucoup plus ouverte que celle qu'ils avaient dans leur propre pays. Souvent, dans leur propre pays aussi, quelquefois simplement par manque de compétences disponibles. À l'endroit où ils étaient, les formations qu'ils avaient tendance à être très la reproduction de ce qui existait déjà. Et là, c'était très important de leur donner l'occasion de voir des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus diverses, et de travailler ensemble, et d'avoir une organisation beaucoup plus flexible que sont souvent les universités dans le monde entier, pas seulement en Afrique. Et dans ce cas-là, c'était vraiment très très important de gagner en largeur de champ.
Ouverture d'esprit, ouvrons les fenêtres. Si tout le monde pensait comme un mathématicien, le monde serait nettement meilleur. Je cite notre mathématicienne tanzanienne Angelina Bijura, qui a décidément le sens de la formule. Allez, on la suit jusqu'en Tanzanie, mais en musique cette fois, dans la voix de Liam Biko, magnifique chanteuse de jazz originaire de Tanzanie, élevée en Allemagne et chantant en anglais, ça nous plaît, Work Song sur RFI.
Breaking out big rocks, I'm up clocks, I'm serving my time. Breaking rocks out here on a chagrin.
Lion Bico sur RFI. Autour de la question, quelle mathématique au service du développement, avant de découvrir les pistes de réponse des plus éminents chercheurs d'Afrique et d'Europe réunis à l'UNESCO pour une journée, je vous propose, professeur Jean-Pierre Bourguignon, d'écouter d'abord Cédric Villani à Dakar lors du premier forum Next Einstein qui soutient les jeunes têtes chercheuses du continent. C'était en 2016. Cédric Villani n'était pas encore député, mais il défendait déjà l'excellence en mathématiques et en sciences sur le continent avec une autre mathématicienne d'excellence, la professeure Aïssa Wad, présidente précisément de l'Institut AIMS, africain des sciences mathématiques de Mbourg au Sénégal. On les écoute.
Ce mot excellence qu'on a l'impression peut-être d'avoir un peu trop entendu dans certains pays européens, c'est clair qu'il faut en parler davantage ici sur ce continent, parce que c'est une dimension sans laquelle l'Afrique ne pourra pas s'affirmer comme un acteur important sur la scène internationale de la recherche.
Je suis tout à fait d'accord que l'excellence, c'est ça qu'on doit viser en Afrique. Mais il y avait des recherches, mais il manquait un peu d'excellence, des publications dans de très très bonnes revues. Mais l'excellence, je pense que ça doit être le fil conducteur de la science dans le futur en Afrique, pour être au même niveau que le monde entier.
Vous voulez réagir, Jean-Pierre Bourguignon? Parce qu'on n'a pas l'habitude tellement de parler d'excellence en sciences, en mathématiques. Quand on parle du continent, on pense science pour le développement, et juste pour le développement.
Mais alors, comme toujours, ce mot excellence, il a le défaut de donner l'idée qu'on va exclure des gens. Et que les trois premières lettres de exclure et de c'est excellence vrai. Sont les mêmes. Et donc ça, c'est le danger. La vertu et la raison pour laquelle ce qui vient d'être dit, à mon avis, est justifié, c'est que on ne doit pas se contenter, la médiocrité n'engendre que la médiocrité. Et en fait, quand on regarde un peu les jeunes générations, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? S'ils font du sport, ils cherchent à être les meilleurs. Et donc, c'est la même chose, s'ils font des sciences, il faut aussi les laisser chercher à être les meilleurs. Alors simplement, on ne doit pas le faire dans une vision d'exclusion, justement. Mm-hmm. C'est ça le dilemme qu'il faut arriver à surmonter.
Oui, c'est compliqué, elle fait sur le fil.
Voilà. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut absolument se rendre compte que, d'une certaine façon, on doit toujours faire mieux, être meilleur, et qu'il y a une compétition qui existe, et que si on veut, on dit non, mais je n'ai pas besoin de me mettre dans cette compétition, je vais rester en dehors, je vais faire des trucs dans mon coin, etc. Peut-être que ça peut marcher, mais la probabilité est très 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 faible. Donc je pense qu'il faut accepter cette loi difficile, très exigeante, de rechercher les meilleurs résultats. Et de ce point de vue-là, je pense que du côté des jeunes générations, c'est une chose qui peut être parfaitement comprise, à condition qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on fasse percevoir à chaque moment comment on peut encore aller plus loin et comment les défis peuvent être une façon de s'affirmer soi-même. Et en fait, pour beaucoup de mathématiciens, en fait, c'est ça qu'ils ont rencontré. Si vous me permettez une anecdote personnelle, moi, quand j'étais jeune étudiant, enfin jeune lycéen plutôt, j'avais des bons résultats en mathématiques, mais les mathématiques ne m'intéressaient pas vraiment en tant que telles. Ce qui m'intéressait, c'est la littérature ou la philosophie.
Vous, Jean-Pierre Bourguignon.
Oui, absolument. Jusqu'à ce que je rencontre un professeur. J'avais des professeurs de mathématiques de très très bonne qualité, mais bon, ok, je faisais ça facilement, mais c'était pas ça qui me motivait. Ce qui me motivait, c'était vraiment de lire de la philosophie difficile ou des choses comme ça. Et puis finalement, je suis tombé sur un professeur qui visiblement était habité par les mathématiques, n'était pas un très bon pédagogue, donc je ne comprenais pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à travailler par moi-même pour comprendre ce qu'il racontait, parce que j'avais l'impression qu'il racontait vraiment quelque chose d'intéressant. Je savais pas quoi, parce que pour le coup, c'est pas lui qui donnait le... Mais le fait d'avoir été exposé à cette nécessité de travailler par moi-même a changé complètement ma vie, et je suis devenu mathématicien.
Et
ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai découvert ce monsieur a aussi motivé 3 autres mathématiciens professionnels. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je pense que, en particulier pour les jeunes, cette idée de viser à des choses ambitieuses n'est pas une chose qui les rebute, à condition qu'on leur montre les perspectives, qu'on leur donne des exemples, qu'on leur montre la passion qui est chez beaucoup d'enseignants. Et c'est intéressant de voir que, comme le disait Mme Bidjoura, en fait, très souvent, ce qui provoque ça, c'est un enseignant un peu exceptionnel qui arrive à communiquer sa passion, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Et ça, c'est ça qui fait la différence. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, à condition qu'on prend soin de ne pas dire il va y avoir ceux qu'on va garder et ceux qu'on jette.
Oui, c'est ça.
C'est toujours ce danger qu'il doit y avoir cette recherche, ce défi qu'on doit formuler, qu'on doit accompagner, mais ça doit être toujours dans une vision où on ne cherche pas à exclure des gens.
Mmh, oui, c'est qu'il faut à la fois soutenir tous les enseignements finalement, primaires, secondaires, qui effectivement, pour pouvoir former ceux qui enseignent aux plus jeunes, et il faut soutenir la recherche, l'excellence, les mathématiciens les meilleurs, ou ceux qui peuvent avoir les idées ou l'esprit le plus ouvert. Il faut aussi pouvoir soutenir le réseau, c'est-à-dire qu'il y ait des liens, des échanges. C'est une communauté, vous êtes une communauté de mathématiciens.
Absolument. Alors ça, c'est une chose d'ailleurs qui est souvent... D'abord, cette communauté fonctionne peut-être un petit peu moins mal que d'autres, dans la mesure où elle n'est pas trop grosse. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui que le nombre de mathématiciens qui font de la recherche est de l'ordre de 100 à 150 000 personnes dans le monde. Alors ça peut paraître un grand nombre, c'est en fait un petit nombre. Quand on regarde les biologistes dans le monde, c'est plutôt 2 à 3 millions de personnes. Donc c'est sûr qu'une communauté de 2 à 3 millions de personnes, c'est plus difficile à organiser qu'une communauté de 100 à 150 000. Mais donc cette dimension communautaire existe beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges entre les gens. Et c'est fondamental que très tôt, pour les étudiants au niveau universitaire, ils se rendent compte de l'existence. Alors aujourd'hui, évidemment, avec Internet, c'est... voilà, tous les matins, moi, je regarde ce qui est arrivé comme nouvel article dans la base de données que tout le monde partage, qui s'appelle Archive. Et donc, ça, c'est une chose qui est devenue banale, qui n'était pas du tout il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on recevait de temps en temps un fax de quelqu'un ou un coup de fil pour savoir les nouvelles. Aujourd'hui, les nouvelles, on les a spontanément tous les matins et après, il faut trier.
Où qu'on soit sur la planète.
Où qu'on soit sur la planète. Et après ça, il faut trier parce que ce déluge amène aussi, pas seulement des bijoux, il amène aussi des choses dont il faut se débarrasser tout de suite et surtout pas encombrer son esprit.
Il faut aussi savoir faire le tri, oui, bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est les deux aspects de la chose, facilité, mais éventuellement médiocrité ambiante.
Direction le Sénégal, que vous connaissez bien, Jean-Pierre Bourguignon, avec le professeur Diaraf Seck de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est aujourd'hui à la tête d'un programme de recherche financé par la fondation Simons, sur l'analyse non linéaire, la géométrie et leurs applications à l'environnement notamment. Un programme qui regroupe donc des chercheurs d'une dizaine d'universités différentes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Notre reporter Charlie Dupiot a rencontré le professeur Diaraf Seck lors de cette journée spéciale Math Days for Development à l'UNESCO, à la vous participiez aussi. On écoute le professeur.
J'ai fait ma formation en France. Après, j'avais beaucoup d'offres. Je pouvais rester en France, aller aux États-Unis et même dans d'autres pays. Mais j'ai choisi de retourner au Sénégal. Donc là, en Afrique, en vue de pouvoir contribuer sur le développement des mathématiques. Depuis 2006, j'ai lancé un programme de recherche autour des problèmes d'érosion côtière. Donc actuellement, on forme un groupe de 4 personnes spécialisées dans ce domaine-là, des mathématiciens.
Mais quel lien avec les mathématiques pour l'érosion côtière?
Les questions d'érosion côtière ne sont pas bien comprises. En fait, pour étudier les questions d'érosion côtière, au fond, ce que les gens font, ils regardent deux aspects. Les aspects hydrodynamiques, c'est l'évolution de l'eau et les équations morphodynamiques qui traduisent l'évolution du lit du fond de mer. Donc, nous essayons d'étudier cette dynamique-là qui est extrêmement complexe.
Et ça, les mathématiques permettent de comprendre cette dynamique.
Nous avons proposé des modèles pour en fait essayer de comprendre le problème d'érosion côtière.
C'est un vrai problème au Sénégal.
Oui, c'est un vrai problème. En fait, nous avons 700 km de côte. Il y a les réchauffements climatiques, en fait, il y a la montée des eaux, donc là, une augmentation du niveau des océans. En fait, il y a la force des vagues qui augmente aussi. Il y a la presqu'île du Cap-Vert, où se trouve la capitale du Sénégal. En ce moment-là, en fait, si rien n'est fait pour atténuer les problèmes d'érosion, peut-être un jour, je ne serai pas là, peut-être, on risque de voir cette presqu'île-là devenir en fait une île. Il ne faut pas attendre que les catastrophes soient là pour dire « Oh mon Dieu, il y a telle catastrophe ». Il faut essayer de trouver des solutions jusqu'à présent. Les ouvrages qui sont construits actuellement ne sont pas suffisamment étudiés.
À quelle solution peut contribuer un modèle mathématique?
Ben, à mieux comprendre ces phénomènes-là et à dire en fait quelle forme géométrique donner à ces ouvrages-là. En fait, ce n'est pas du tout clair, ce n'est pas du tout compris à mon avis. Mais aussi, où est-ce qu'il faut poser ces digues-là? Au niveau des plages ou bien au niveau des océans en vue de casser la vague dès le début, en fait, pour essayer de diminuer la force? Ce sont les ingénieurs qui proposent des solutions. Mais en fait, je pense que si on combine l'action des ingénieurs et ce que les mathématiciens font, je pense qu'on peut apporter en fait des améliorations sur ces questions-là. On peut proposer aussi des algorithmes adéquats pour en fait aller vers des méthodes de résolution.
Mais pour vous, pour que les maths soient utiles au développement, il faut aussi s'allier à d'autres disciplines.
En fait, les mathématiques ne se sont jamais développées en s'écartant des autres disciplines. Il y a les physiciens déjà, il y a les hydrogéologues. Les mathématiques peuvent vraiment aider pour essayer de comprendre. Parce que quand on comprend, on peut prendre de meilleures décisions.
Jean-Pierre Bourguignon, sur ce programme de modélisation étonnant du professeur Diarafsek, vous voulez nous apporter votre regard ?
Non, moi je suis très très content de ce qui vient d'être dit. D'abord parce qu'il se trouve que j'ai vu un peu le développement de ce projet, puisque je connais les gens de la Fondation Simons qui ont lancé ce programme et qu'il en a été un des lauréats, et un des lauréats avec un succès spectaculaire. C'est-à-dire que non seulement ils ont fait des résultats remarquables avec des conséquences très précises sur des actions possibles sur le terrain.
Sur vraiment un problème insoluble, hein, l'érosion.
Disons, un problème qui en fait se complique encore à cause du changement climatique, à cause de l'augmentation du niveau des océans. Et avec toutes les choses qui l'accompagnent, c'est-à-dire pas seulement plus d'eau, mais aussi les vagues qui changent de nature, de force, etc. Mais surtout, ce qu'il a fait de façon tout à fait remarquable, c'est qu'il a su créer un réseau où les connaissances sont partagées, où les formations sont partagées, et donc il y a vraiment une descendance. Et ça, c'est vraiment un succès remarquable de ce point de vue-là. Pas seulement des nouveaux résultats mathématiques, mais aussi une capacité à mobiliser une nouvelle génération, former des gens, créer des liens durables avec d'autres communautés. Donc je pense que le professeur Seck est un très très bel exemple de gens qui sont des leaders, pas seulement au niveau de leur pays, mais au niveau du continent et reconnus au niveau mondial, pour des contributions vraiment significatives de mathématiques, mais avec des mathématiques en lien avec d'autres activités, et des activités directement pertinentes pour le développement d'un pays.
Des mathématiques fondamentales, mais appliquées directement au développement sur place.
Absolument.
Moi, je suis frappée, justement, de cette communauté de mathématiciens, qu'ils soient du Sud ou du Nord, qui sont véritablement en lien, en réseau, qui sont, je trouve, vous, Jean-Pierre Bourguignon, Cédric Villani, d'autres aussi, qui sont très investis, finalement, dans ces échanges, dans ce partage. Enfin, je veux dire, ça vient du cœur de chacun d'entre vous. Alors évidemment, ce sont ces mathématiques qui vous rassemblent, mais pas que, il y a quand même quelque chose en plus. Regardez le professeur Seck qui construit un réseau, donc c'est pas seulement à chaque fois, c'est pas seulement pour vous ou pour lui. Voilà, il faut qu'il y ait une descendance.
Oui, disons d'abord, tous les enseignants, pas seulement les mathématiciens, c'est tellement fondamental d'avoir des étudiants, d'échanger avec eux, parce que c'est d'abord le plus souvent des étudiants qu'on apprend le plus de choses. C'est parce que c'est eux qui vous posent aussi des défis. Donc ça, c'est pas les disons peut-être que dans le cas des mathématiciens, c'est un tout petit peu plus facile parce que c'est une discipline qui a l'avantage de que pour lequel son enracinement, disons, dans des institutions est un petit peu plus facile à transgresser que dans d'autres. Pour la raison que, effectivement, les équipements dont on a besoin, c'est essentiellement d'avoir du temps, d'avoir des collègues hospitaliers prêts à échanger. Donc, d'une certaine façon,
oui, il n'y a pas besoin de grands instruments de la physique.
Voilà. Alors, on a quand même besoin, mais aujourd'hui, l'accès est universel, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, il faut avoir accès à Internet dans de bonnes conditions, il faut avoir accès à des moyens de calcul importants. Dans le cas de ce que fait le professeur Seck, il y a vraiment de la modélisation pour laquelle il faut vraiment calculer pour de bon. Mais en tout cas, ça, c'est des choses qui sont, là encore, des prestations génériques. Alors, évidemment, elles ne sont pas forcément partout disponibles, mais quand même très, très souvent disponibles. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais donner un autre exemple, qui est celui d'une mathématicienne absolument extraordinaire, qui vient d'être reconnue comme une des lauréates du prix UNESCO L'Oréal, qui est donc Ingrid Dobosci, qui est une mathématicienne qui a fait des choses absolument remarquables comme mathématicienne, mais qui est aussi très investie dans la coopération avec Madagascar. Et Madagascar n'apparaît pas comme le pays, disons, qui est le plus prospère en matière d'enseignement supérieur actuellement, mais elle a développé des relations de travail dans la durée. Et c'est aussi l'autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est que toutes ces choses ne sont possibles que s'il y a vraiment une sorte de stabilité minimale. C'est-à-dire si vraiment les efforts de développement, mais aussi d'accès, de fluidité, sont continus dans suffisamment longtemps.
Il faut que vous ayez vraiment
qu'on donne un coup, on donne un grand coup et puis après on s'intéresse plus aux choses, ça marche pas. Ce qui marche, c'est vraiment les efforts dans la durée. Et un certain nombre de mathématiciens ont su faire ça, c'est-à-dire ont su nouer ces relations, les nourrir, faire que, par exemple, une des choses qui est essentielle pour les mathématiciens, c'est la possibilité d'accueillir des collègues de façon répétée pour des séjours, disons, significatifs, c'est-à-dire un mois jusqu'à trois mois, mais répétés pendant plusieurs années.
Se pose la question des visas, se pose plein de questions.
Oui, même les soutiens, presque toujours, c'est ce type de soutien n'est pas naturellement disponible.
Sur le long terme, c'est ça.
Sur le long terme. Et donc, c'est ça qui, à mon avis, dans le cas des mathématiques, est le plus opérant, parce que ça veut dire que ces mathématiciens ou mathématiciennes qui bénéficient de ça ne sont pas coupés de leur monde normal, donc ils continuent à former des gens, mais malgré tout, ils peuvent développer dans la durée des collaborations fructueuses avec des gens qui sont...
Et faire des allers-retours, finalement, voilà. Des allers-retours entre toutes les communautés de mathématiciens. Autour de la question, quelle mathématique pour le développement, donc au sud comme au nord, on l'a dit, ça commence évidemment par l'éducation et par un changement de regard sur cette discipline et sur son enseignement. Je propose, Jean-Pierre Bourguignon, de tester tout de suite la méthode assez géniale développée par un professeur de maths qui est aussi un rappeur. Great Teacher Issaba, carrément, originaire de Montreuil, donne ses leçons originales sur la toile en revisitant les morceaux phares du hip-hop. Et ça marche, la preuve avec cette nouvelle version d'un morceau de Kerry James signé Great Teacher Issaba. Et ça devient statistique. Leçon 2, ça déménage.
Si aujourd'hui je prends le chromie, ce n'est pas pour te parler de balistique. Bon, t'as l'habitude, mais cette fois si je clique, c'est pour qu'on fasse un peu de statistiques. Qu'on étudie les caractéristiques d'une population ou d'un ensemble de gens. Ça peut être leur note, leur salaire, leur âge, leur poids, leur taille ou même leur nombre de dents. Pour commencer, l'effectif global, c'est le nombre total qu'il y a d'éléments. Des éléments qui ont tous une valeur, si c'est plusieurs fois la même, ce n'est pas gênant. On peut résumer tout ça dans un tableau de deux lignes, donc pas de paresse. Dans la première, mets les valeurs possibles. Dans la deuxième, le nombre de fois qu'elles apparaissent. Si tu dis vise ces nombres, par l'effectif total t'obtiens la fréquence que tu multiplies par 100, si en pourcentage tu veux la réponse, là sur l'instru je me dépense, mais ce qui suit tu peux le faire toi-même, tu calcules la somme des valeurs, tu divises par le nombre total, ça donne la moyenne, mais relis-toi, sois cohérent, y'a des valeurs qui apparaissent plein de fois, y'a des coefficients, range-les dans leur croissant, pour la suite m'entends-tu, et la plus grande valeur, moins la plus petite, bah c'est l'étendue, et pour la médiane, en gros tu dois trouver la valeur pile au centre, faut qu'il y ait autant de valeurs plus petites, quelques de valeurs plus grandes. Allez, un petit exemple, admettons que des valeurs t'en as 10 même. Après les avoir mises dans leur 300, tu te demandes si c'est la 5ème ou la 6ème. Comme 10 est un nombre pair, aucune de ces deux valeurs ne fera l'affaire. En fait la médiane est comprise entre les deux valeurs les plus au centre quand l'effectif est pair.
Aucune de ces deux valeurs ne fera l'affaire. En fait, la médiane est comprise entre les deux valeurs les plus au centre quand l'effectif est pair.
Great Teacher Issaba sur RFI, comme quoi hip-hop et mathématiques, ça peut aussi faire bon ménage. Vous en pensez quoi, Jean-Pierre Bourguignon ?
Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est la créativité qui va là-dedans. L'idée de se saisir des modes d'expression qui existent autour de vous, qui sont en plus, j'imagine, pour ce professeur, ceux des gens avec qui il est en contact tous les jours. C'est ça qu'ils écoutent, c'est ça qu'ils pratiquent.
Et du coup, et apparemment, donc, ils retiennent beaucoup mieux, hein, comme ça, avec ces paroles-là.
Ça, je n'ai pas d'éléments pour juger, mais je pense que ça peut faire partie des choses qu'ils testent. Mais c'est aussi pour montrer, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé très remarquable, c'est, vous savez, pour faire des mathématiques, il faut les dire. Et d'une certaine façon, le fait de les transformer en rap a comme effet que vous êtes obligé de trouver l'expression juste. Et là, je trouve qu'il y a un effort très remarquable pour dire des choses
abstract.
Pas trop compliqué, mais malgré tout très signifiante, dans un rythme et dans une formulation percutante.
Autour de la question, quelles mathématiques pour le développement ? Alors, vous avez, Jean-Pierre Bourguignon, débattu de cette question lors d'une journée spéciale à l'UNESCO, en compagnie des meilleurs chercheurs d'Afrique et d'Europe engagés sur le continent, où était aussi présent un autre professeur, le professeur Barry Green, de l'université de Stellenbosch, en Afrique du Sud. Lui, il est spécialiste d'algèbre et de la théorie des nombres. Barry Green préside également le Centre international de mathématiques pures et appliquées au sein de l'UNESCO, qui a ouvert plusieurs centres de formation sur le continent africain. Il s'en est expliqué au micro de notre reporter Charlie Dupiot.
Notre but est de contribuer à la croissance socio-économique du continent africain, à la nouvelle histoire de l'Afrique, en donnant leur chance à des jeunes talents. La science mathématique sous-tend beaucoup de ce qui est fait dans notre monde aujourd'hui. Qu'il s'agisse de décrire des phénomènes naturels liés au réchauffement climatique ou d'étudier et de modéliser des maladies. Et par exemple, si vous regardez votre téléphone portable, il contient tellement de physique et de maths à l'intérieur. Nous avons besoin de faire partie de cette histoire-là. Et il y a de jeunes étudiants sur le continent africain qui sont brillants, mais qui n'ont pas accès aux opportunités. Notre but, c'est de leur donner cet accès-là. Nous avons des centres de formation en Centrafrique, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun, en Tanzanie, mais aussi au Rwanda, à Kigali. Et chaque centre accepte 50 à 60 étudiants par an. Tous nos étudiants arrivent dans nos centres avec une licence de 4 ans d'études en poche. En général, ils ont étudié les maths appliquées, l'informatique, les statistiques, l'ingénierie électrique. Nous leur proposons un programme de master équivalent à un master 2. Nous ne sommes pas un institut de mathématiques pures. Nous avons des étudiants intéressés par les mathématiques pures ou la physique, mais d'autres sont intéressés par les maths appliquées à la finance, à l'environnement ou à d'autres domaines encore, comme celui du data, des données.
Et quel est le coût de ces formations et à quoi ça mène ?
Notre programme est complètement financé par des donations. Les dons permettent de couvrir les frais de scolarité de nos étudiants, de leur attribuer des bourses. Les coûts opérationnels des centres sont couverts par les gouvernements nationaux. Depuis le début, nous avons déjà formé près de 1700 étudiants. 250 d'entre eux ont ensuite choisi de faire un doctorat. 70% de nos anciens diplômés sont toujours basés en Afrique et près d'un tiers sont des femmes. Certains anciens étudiants travaillent aujourd'hui comme ingénieurs ou bien dans l'océanographie ou encore dans d'autres domaines pour lesquels les mathématiques jouent toujours un rôle.
Jean-Pierre Bourguignon, avec le professeur Barry Green, on comprend bien qu'il y a aussi la question du financement. C'est une question majeure. Comment soutenir tous ces jeunes brillants sur le continent qui peuvent faire des études de sciences, de mathématiques appliquées à des questions fondamentales.
Alors, c'est sûr que donc Barry Green, qui est le directeur du centre Ames en Afrique du Sud, mais aussi, vous le disiez dans votre introduction, il est aussi le président du CIMPA, qui est le Centre international de mathématiques pures appliquées, qui est une association loi de 1901 qui est basée à Nice mais aussi un centre UNESCO et qui donc je suis très content que en fait dans ces efforts d'internationalisation comme son nom l'indique CIMPA I pour international Barry Green a été attiré pour être le président de ce centre
là qui encore plus de frontières ni même linguistiques ni francophone anglophone donc, enfin là on peut
à l'origine le CIMPA était très francophone. Maintenant, il est complètement international. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la France et l'UNESCO qui financent, mais il y a aussi d'autres pays qui financent. Il y a l'Espagne, la Suisse, la Suède, je crois aussi. Donc ça veut dire qu'on est aussi maintenant passé à ce... Pour revenir sur la question du financement, effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, évidemment, que les mathématiques font partie de disciplines enseignées dans les universités. Et donc, la question des moyens disponibles dans l'enseignement supérieur dans les pays est toujours un sujet, parce que beaucoup de pays ont des budgets très difficiles à établir, avec des priorités considérables pour la survie des populations, souvent. Donc, évidemment, on a l'impression que l'enseignement supérieur, c'est un luxe. Mais en fait, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement absolument capital si on veut réussir une montée générale du niveau dans un pays, parce qu'il faut former, comme on l'évoquait tout à l'heure, les enseignants, parce qu'il faut aussi fournir à une industrie ou à des services naissants une main-d'œuvre de qualité, attirer des investisseurs dans les main-d'œuvre de qualité. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'écouter Marie Thionian, mais il me disait...
J'aurais bien aimé l'ancien ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur du Sénégal.
Qui était très très fier de voir que la société Atos avait décidé de créer un de ses centres d'ingénierie à Dakar. Et pour lui, c'était une victoire extraordinaire de voir qu'une société qui, évidemment, regarde le meilleur endroit pour s'installer, évidemment meilleur au sens de la main-d'œuvre, de la qualité de la main-d'œuvre dont ils vont pouvoir disposer, choisissait de sortir d'une partie de ses investissements d'Inde pour venir les mettre en Afrique à Dakar. Et donc ça, c'était un exemple d'une formation qui allait permettre d'attirer durablement en Afrique, donc à Dakar, une compétence de haut niveau en informatique. Donc ça, c'est vraiment très significatif.
Quand je dis, Jean-Pierre Bourignon, que les mathématiciens comme vous n'aiment pas les frontières, ou en tout cas les abolissent, là on est vraiment plus de frontières linguistiques, plus de frontières entre disciplines, et puis aussi plus de frontières entre maths et industrie. C'est pas un gros mot, hein. Il n'y a pas les mathématiques fondamentales d'un côté et appliquées de l'autre.
C'est-à-dire, la chose qu'on a apprise maintenant, c'est que de créer c'est d'abord le schéma qui voudrait dire il y a des choses théoriques, puis des choses appliquées, puis des choses qui vont dans l'industrie, est un schéma qui est complètement dépassé aujourd'hui. On a vraiment constamment, c'est plutôt une image d'un cercle auquel il faut penser. On a vraiment, et qui sont des cercles vertueux, c'est-à-dire il y a à la fois des sollicitations qui viennent des services ou des industries et qui posent des problèmes pour lesquels on a des solutions et on fait la boucle. Et donc, il faut constamment penser en ces termes aujourd'hui pour être plus efficace. Mais l'autre chose aussi qui est importante, c'est que les gens qui sont formés aux mathématiques aujourd'hui, si je prends le cas de la France, qui évidemment pas le cas de la plupart des pays africains, mais en tout cas dans le cas de la France, plus de la moitié des docteurs en mathématiques aujourd'hui formés vont dans les entreprises. Donc l'idée que les mathématiciens ne s'intéressent pas aux entreprises, c'est une idée qui n'est plus possible. Et ça veut pas dire, c'est fondamental qu'il en reste un nombre significatif qui reste dans le monde académique, qui continue à former des gens. Mais c'est très important de ne pas faire une sorte de césure et de dire il y a ceux-là et ceux-là. Ça serait une erreur dramatique.
On l'a bien compris. On va essayer de poursuivre ce cercle vertueux. Vous revenez quand vous voulez, Jean-Pierre Bourignon, parce qu'on n'a même pas parlé du Conseil de la recherche européenne, ni de son inspiration future pour un futur Conseil de la recherche en Afrique. Mais on en reparlera quand vous voulez, quand vous pouvez. Merci Jean-Pierre Bourignon d'être venu en direct pour nous faire partager ce développement des mathématiques individuelles et collectives sur le continent. Le lien sur cette journée spéciale maths et développement est sur notre page. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, chers amis auditeurs, pour enrichir encore notre album de famille avec un tout nouvel ancêtre, l'homme de Lousson, nouvelle espèce humaine, aujourd'hui disparue, découverte par le paléoanthropologue Florent Détroit sur l'île de Luzon, aux Philippines. Il nous fera partager cette formidable découverte autour de la question « Qui était Homo Luzonensis ?» Réponse demain avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Merci de votre curiosité. Chers amis auditeurs, n'hésitez pas à nous podcaster sur l'appli RFI Pure Radio, mais aussi sur Spotify. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations. Les voisins.